Bonjour à toutes et à tous. Joyeuse Pentecôte, je ne sais pas si ça se dit, mais moi j'ai envie de vous le dire en tout cas. C'est plus fréquent de dire joyeuse Pâques, joyeux Noël, mais j'ai aussi envie de dire joyeuse Pentecôte parce que pour nous les chrétiens, c'est, je dirais, une fête tout aussi fondamentale. On est bien le chiffre 3, hein, les chrétiens. Père, Fils, Saint-Esprit, alors je dis qu'il y a Noël, Pâques, Pentecôte. On y est, aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une héroïne de la foi, et puis j'ai nommé Marie. Marie comme notre inspiration aujourd'hui, comme un point d'ancrage, puis vous allez voir qu'il y a quelque chose aussi à voir avec la Pentecôte. J'essaye de brosser à très grande ligne, à très grand trait, un peu qui est Marie. Il y a quand même derrière ce destin-là quelque chose de tout à fait exceptionnel, vous allez le voir. Alors je vais être beaucoup trop rapide, c'est un peu à regret, mais on y va, on prend le train comme il est. Encore adolescente, on ne sait pas exactement quel âge elle avait, mais je dirais entre 15 et 16 ans, elle est choisie par Dieu lui-même pour porter son fils. C'est pas rien, 15 à 16 ans. Et à 15-16 ans, elle accepte ce destin-là avec une disponibilité exceptionnelle. Ensuite, elle se retrouve enceinte et elle doit vivre une fin de grossesse plutôt mouvementée. Solène, que vous avez entendu jouer de la flûte traversière tout à l'heure, elle est sage-femme. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'elle conseille à toutes les personnes qu'elle suit actuellement de vivre la fin de grossesse comme Marie l'a vécu, puisque au bout du 8e ou 9e mois, elle décide d'entreprendre un voyage de plusieurs centaines de kilomètres à pied pour aller se faire inscrire dans une autre ville. Ce n'est pas exactement ce qu'on conseille aux femmes enceintes actuellement en 2021. Et pourtant, Marie, 16 ans, c'est ce qu'elle fait avec son mari, Joseph. Et tout à coup, arrive ce qui devait arriver. Elle met au monde son fils, Jésus. Et là, elle est quasiment toute seule. Il y a bien, selon la légende, un âne et un bœuf qui sont à côté de lui. Mais pas de traces de Solène non plus sur ce coup-là. Elle est toute seule. Peut-être que Joseph lui a tenu la main, je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'il en est à ce niveau-là. Mais généralement, c'est le rôle des hommes à ce moment-là. Ensuite, elle accepte petit à petit le destin, hors norme de son fils. Et là, ce n'est pas évident pour une mère non plus d'accepter ce destin-là. On a un exemple clé dans les évangiles qui nous est rappelé, où il nous est dit qu'à 12 ans, ce qui est quand même relativement jeune, les parents de Jésus ne savent plus où il est, ils se font du souci, ils le recherchent un peu dans toute la ville pour le retrouver plusieurs heures plus tard en train de disserter avec les maîtres de la loi sur la volonté de Dieu et l'interprétation des Écritures. Et là, Marie arrive catastrophée vers lui, « Mais tu fais quoi, Jésus, là ?» Puis il lui dit, « Je m'occupe des affaires de mon père. » 12 ans, Jésus, à ce moment-là. Elle comprend peut-être que là, son fils a une autorité particulière. Et ce n'est pas elle qui a une autorité particulière, mais son fils. J'en veux pour preuve, lors du premier miracle de Jésus à Cana, en Galilée, le mari est un peu décontenancé, il ne sait pas exactement ce qui se passe, parce que, catastrophe, dans un mariage, quand il y a plus de vin, ça casse un peu l'ambiance. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'adresser à Marie, qui devait quand même être une figure d'autorité, d'une certaine façon, en tout cas une figure de référence. Et là, elle renvoie directement à son fils Jésus et elle leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». On voit qu'elle accepte petit à petit son rôle de mère de Jésus, de mère du Fils de Dieu. Et là, c'est vraiment l'occasion pour elle de grandir petit à petit à ses côtés, et de ce que ça veut dire d'être mère du Fils de Dieu. Et elle est d'une fidélité absolument extraordinaire. C'est une des seules qui reste à côté de lui le jour de Pâques, le jour de la Vendredi Saint, au calvaire, à Golgotha. Elle reste à ses côtés alors qu'il est en train d'agoniser sur la croix, son fils, injustement crucifié pour nous. Elle reste à ses côtés fidèlement, et elle est même avec lui et avec le groupe des disciples lorsqu'ils arrivent avec cette annonce extraordinaire qu'il n'est plus dans le tombeau, qu'il est ressuscité. Chaque fois son nom, on le retrouve, il est là avec le groupe des disciples, avec le groupe des femmes. Et elle fait partie, et là c'est le lien avec la Pentecôte, de tous ceux qui prient dans la chambre haute lors de l'événement de la Pentecôte. Elle fait partie aussi là de ce groupe de disciples qui attend l'Esprit Saint et la venue de l'Esprit Saint. Et on lit dans Acte 1, au verset 14, « Tous prient fidèlement d'un seul cœur. Et avec eux, il y a quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. » Personnellement, je dois bien avouer que je n'avais jamais remarqué qu'elle était là, dans la chambre haute, avec tous les disciples. Et quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Donc on a toutes les raisons de penser que c'est exactement les mêmes qu'au verset 14. Ils sont dans cette attitude de prière, attendant la promesse que Jésus leur a donnée. Et tout à coup, un bruit, vient du ciel. Ça c'est le talent pur, quand ce n'est pas voulu. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis d'Esprit Saint et tous, ils se mettent à parler d'autres langues. Et c'est l'Esprit qui leur donne de faire ça. Marie, ce destin exceptionnel, elle est donc aussi présente dans ces tout premiers temps de l'Église et de la transmission de la foi et de la réception de ce don de l'Esprit-Saint. Elle reçoit aussi là, dans la chambre haute, ce souffle puissant, ces langues qui se posent aussi sur elle, pour annoncer ensuite à l'extérieur, comme on essaye modestement de le faire ce matin avec Reto et Alain, que l'on bénit, à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur dans cette chambre haute. Marie, elle est aussi là. On ne peut rien d'autre dire que c'est un destin complètement hors norme. Et puis si vous voulez en savoir un peu plus, il y a quelqu'un qui m'a soufflé ce nom de roman, c'est Valérie Pellet qui est là. Marie, une femme d'obéissance, si vous voulez vous étaler un peu plus longtemps cet été, pendant les vacances ou bien si vous avez des insomnies, vous pouvez lire ce livre, Marie, une femme d'obéissance, qui retrace plus en détail ce destin que je viens d'essayer de vous faire en quelques minutes seulement. Pourquoi évoquer des héroïnes ? Parce que je crois qu'elles ont cette capacité de nous inspirer. Et pourtant, il y a aussi quelque chose qui peut être, quand c'est complètement fou comme le destin de Marie, qui peut nous accabler puis nous dire, mais punaise, est-ce que vraiment ça me concerne, moi, petit David ici à Nyon au 21e siècle ? Et je crois qu'il y a quand même quelque chose de fort qui se joue à ce niveau-là. Ou bien peut-être pour nous évangéliques, il faut bien avouer que Marie, ce n'est pas complètement notre tasse de thé. On a un petit malaise avec Marie. On essaye de se distancer au maximum de la pratique catholique. Et du coup, Marie, c'est quand même un peu la parent pauvre de nos prédications. Moi, ça fait depuis 2005, j'ai calculé à peu près que je donne régulièrement des enseignements, des prédications, que ce soit des jeunes ou en église. Et c'est la toute première fois que je parle de Marie, mère de Jésus. J'ai souvent parlé sur Marie de Magdala, mais Marie, mère de Jésus, c'est historique, c'est la première fois que je fais une prédication dessus. Et puis c'est peut-être dû à toutes ces imageries que l'on a quand même fatalement en tête, puis là ça me donne l'occasion de vous parler de mes vacances au Tessin de la semaine passée, où sur un petit sentier de montagne très escarpé dans une forêt, tout à coup je tombe sur une chapelle, érigée en l'honneur de qui ? En l'honneur de Marie, vous avez bien compris. Et on a effectivement en image toutes ces questions de représentation de Marie, ces madones, comme on les appelle, qui sont extrêmement présentes. Et puis vous voyez que là, il y a vraiment une dévotion qui est extrêmement forte parce qu'on est vraiment perdu au milieu de la nature avec l'intention et la réalisation de construire une chapelle, non pas pour Dieu ou Jésus, mais bien pour Marie, la mère de Jésus. Donc ça, c'est un élément qui nous dérange. Et puis du coup, quand il y a des éléments qui nous dérangent, on a un peu tendance à tout mettre de côté en oubliant tout ce que cet exemple de Marie peut nous apporter. Alors, mon invitation ce matin, je suis bien conscient que je marche un peu sur des œufs dans une église évangélique, mais c'est de se dire, regardons ce destin-là de Marie, car il va vraiment nous inspirer. Et d'une certaine manière, tout part au début de son ministère, qui veut dire service. Et là, si vous deviez retenir qu'une seule chose de ce que j'ai envie de vous transmettre ce matin, c'est que dès l'âge de 15-16 ans, puis on a eu un bon témoignage avec vous deux tout à l'heure, où vous avez aussi presque commencé à cet âge-là, hein, 15-16 ans. de se placer sous le signe du ministère, qui, je le rappelle, veut dire service. Dès le début de sa vie avec Dieu, finalement, elle se place sous le signe du ministère, où elle se met au service du plan de Dieu pour elle. Elle ne fait rien d'autre que ça, et finalement, pour nous croyants, c'est le tout de se mettre au service de Dieu. Et en ce sens-là, on va voir qu'elle est vraiment à contre-courant, en tout cas sur deux éléments que j'aimerais développer avec vous. Et avec elle, finalement, puisque l'on va méditer le magnifique chant qu'elle fait monter vers Dieu lorsqu'elle apprend qu'elle va porter le Fils de Dieu en elle. Marie dit alors, et on trouve ce texte dans Luc 1, verset 46. L'évangile de Luc 1, verset 46. « Oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause du Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante, sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. » CF Petite Chapelle au Tessin. « Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom, à lui, est saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissance. Il chasse ceux qui ont le cœur orgueilleux. » Il renverse les rois de leur siège et il relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim. Et les riches, il les renvoie les mains vides. Il vient au secours du peuple d'Israël, son serviteur. Il n'oublie pas de montrer sa bonté. Magnifique comme phrase, ça. Il n'oublie pas de montrer sa bonté. Voilà ce qu'il a promis à nos ancêtres, à Abraham et à sa famille que nous sommes, pour toujours. Et là, le peuple de Dieu dit « Amen ». Rien que pour ce chant, c'est inspirant de s'arrêter sur cette figure de Marie, au-delà même de sa biographie. Quand on arrive à exprimer comme ça une louange vers Dieu. Et quand je vous ai dit que tout part de ce début de vie avec Dieu, où elle décide de se mettre à disposition de Dieu, de vivre son ministère, c'est-à-dire d'être au service de Dieu, tout commence, et c'est significatif, par une attitude de louange. Elle commence, les premiers mots qu'on a dans la bouche de Marie, c'est des mots de louange. Et pour nous, c'est important, la louange. Ça fait partie de nos cultes, ça fait partie, je l'espère, même au-delà de nos cultes, de nos vies quotidiennes, la louange où on peut dire « qui est Dieu pour nous ?» Et là, on a un magnifique exemple de louange, parce que pour une fois, puis là, je ne vais pas entrer dans la polémique, j'ai pensé le faire, mais je me suis retenu de le faire, de comparer les paroles de ce chant-là avec les paroles de certains chants qu'on chante. Et c'est frappant de voir dans ce chant de Marie à quel point c'est un chant qui se déroule en « il » et pas en « je ». « Il a fait » tel et tel, « il est » comme ça. Je loue le Seigneur qui, pour moi, a fait quelque chose. Mais c'est le Seigneur qui est au centre. Et là, on a un témoignage d'admiration, de grande estime de ce qu'il fait pour nous. Pas de ma disponibilité, de ce que je me tourne autour du pot et tout et tout. Marie, dans ce sens, est un exemple véritable de louange. Et par cette attitude de louange, elle dit vraiment sa disponibilité pour Dieu. Ça, c'est peut-être le deuxième terme clé pour Marie. Il y a service et il y a disponibilité. Et les deux, là, de nouveau, vont vraiment ensemble. Elle est disponible pour Dieu. Et plus fort encore, puis là, elle a un destin unique, elle a été disponible pour accueillir Dieu en elle de manière unique. Je ne sais pas si on s'imagine vraiment ce que ça veut dire, ça. Disponible pour accueillir en elle le Fils de Dieu. Et pour nous, elle nous dit vraiment cette disponibilité d'accueillir en nous la présence de Dieu. Et aujourd'hui, à Pentecôte, on a vraiment une occasion particulière de le revivre à nouveau. Parce que c'est rien d'autre que de se souvenir de ce don de la présence de Dieu en nous. Ce don de l'Esprit-Saint en nous que nous fêtons aujourd'hui, c'est placer notre confiance que Dieu agit toujours de la même manière en nous et à travers nous, à travers l'Esprit-Saint. On pense souvent à peut-être des choses un peu mirifiques, extraordinaires, la Pentecôte, il doit se passer des grands bruits où on fait tomber la zapette, mais ce n'est pas que ça. Moi, il y a une prédication qui m'a beaucoup impacté, c'était tout simple, parce que j'étais plein dans ces questions, mais qu'est-ce que ça veut dire la Pentecôte, qu'est-ce que ça veut dire le Saint-Esprit, est-ce que ça doit toujours être si épatant que ça, je n'avais pas vraiment vécu ce genre de choses de manière évidente. Et le prédicateur nous a dit, mais arrêtez de vous poser toujours ces X et 1000 questions, c'est simplement l'Esprit de Jésus qui vient en vous. Puis je ne sais pas, ça m'a apaisé, c'est tout simple. Mais c'est de se dire, il n'y a pas besoin de chercher, j'ai envie de dire, de midi à 14h, c'est ce Jésus qui est parti au ciel, il vient, et là c'est aussi extraordinaire, habiter en nous. Et nous, notre raison d'être, c'est d'être disponible, ouvert à cette présence de Jésus en nous. C'est ça, être croyant, et c'est ça, nous réjouir à la Pentecôte, c'est de nous réjouir de ce don qui est toujours valable pour nous, parce que plus de 2000 ans après, ce qui s'est passé à la chambre haute, on le vit encore et toujours, cet esprit de Jésus en nous. Et on les touche, ces moments de grâce. Jeudi passé, par exemple, on était là, une petite équipe, en cercle, réunis autour de la parole, et puis on a pu toucher ce moment de grâce, de sentir le Saint-Esprit qui vient vraiment en nous, entre nous, et qui stimule nos partages, notre écoute de Dieu. Par exemple, jeudi prochain, il y aura une soirée de louange, où on pourra aussi essayer d'expérimenter ce que signifie cette louange en île pour Dieu, pour celui qui vient en nous, et celui qui nous donne sens à notre vie. J'aime bien ce chant qui nous dit, que vous avez chanté en tout premier lieu, qui nous dit que le bonheur, finalement, il est déjà là maintenant. Il n'est pas seulement pour la fin des temps, mais il est déjà là maintenant de savoir Dieu, Jésus, le Saint-Esprit présent en nous. Ça, c'est un exemple de chant, effectivement, que j'ai laissé bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Vous n'avez plus le droit de le prendre, mais non. Mais c'est juste pour dire le décalage qu'il peut y avoir. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Je suis pas complètement sûr que Dieu avait cet élément-là en tête. La foi comme un don. C'est ça aussi qui nous inspire chez Marie. Reconnaître l'action de Dieu en nous. Un don qui suscite des transformations exigeantes, certes, on n'est pas appelé à rester sur place et puis à rester les mains dans les poches en tant que croyant, pas du tout. Mais fondamentalement, ça reste un don. Et Marie nous enseigne aussi cela de manière évidente à travers ce chant. Quand elle dit à Dieu, « Tu as choisi ta servante. » Ce n'est pas elle qui s'est forgé un destin. Ce n'est pas elle qui s'est forgé un destin hors norme, comme je viens de vous le décrire. L'action unique vient de Dieu. C'est lui qui est fiable, c'est lui qui n'oublie pas d'être bon, c'est lui qui peut tout. Et en l'occurrence, il a choisi Marie pour pouvoir le vivre parmi les hommes. Ce n'est pas une self-made woman. Ce n'est pas une héroïne parce qu'elle a été super entrepreneuse et puis qu'elle a fait X, Y actions qui l'ont menée là où elle est. Et c'est peut-être bien, et là, elle est vraiment à contre-courant, elle est à contre-courant sur la louange, elle est à contre-courant aussi là, dans une société qui a orienté à 2000% sur la performance, sur l'auto-entrepreneurship, sur le fait d'être super bon au niveau des startups, là, elle est complètement dans un autre univers. Elle se met simplement à disposition de ce que Dieu peut faire à travers elle. Pas de ce qu'elle peut faire grâce à Dieu. C'est subtil, la différence. Elle se met à disposition de ce que Dieu peut faire à travers elle. Elle n'a jamais forcé la main de Dieu pour lui dire « Viens vers moi et puis donne-moi un destin qui soit super cool à vivre, que je vais pouvoir faire envie à plein de personnes autour d'elle. » Elle a simplement accepté et elle est restée disponible à ce que Dieu a voulu faire en elle. Sa performance, si on peut l'appeler ainsi, c'est à nouveau sa disponibilité, son esprit de service, son ministère finalement hors norme. Parce qu'elle aurait très bien pu se liquéfier, fuir, aller très très loin quand Dieu lui a confié cette mission à travers l'ange Gabriel. 15-16 ans, je veux dire, elle aurait toutes les raisons du monde de se dire « Bon, t'es bien gentil, mais là, c'est un peu haut la barre pour moi. » Je ne vois absolument pas comment je vais y arriver. Elle est restée là, elle est restée disponible. Elle consent au plan de Dieu pour sa vie. Elle obéit, gros mot, à Dieu pour ce qu'il veut faire d'elle. Et après, Dieu ne va pas la laisser tomber. Au contraire, il va l'accompagner dans toutes ces étapes que je nous ai décrites tout à l'heure. La foi, c'est vraiment comme un don. Le plan de Dieu pour nos vies, c'est à prendre comme un don pour nos vies parce qu'on sait qu'il veut le meilleur pour nos vies. On a de la peine à le croire, puis du coup, on essaye de construire nous-mêmes notre propre vie, notre propre entreprise finalement. Et ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut pour nous. Il veut vraiment que nous puissions reconnaître ce qu'il a déjà prévu d'avance pour nous. Et puis, le troisième point que j'aimerais mettre en avant, il est en lien avec ce verset de 1 Pierre 2 qui nous dit « Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. » Cet appel, il est toujours valable pour nous. Hein. Ça, c'est les premiers chrétiens. Pierre, il écrit vraiment aux premières communautés croyantes. En fait, la Pentecôte, le début de l'Église, vraiment, le début de cette communauté croyante qui est en marche. Et nous, nous pouvons aussi assumer ce statut, finalement, d'héroïne et d'héros de la foi. On peut essayer d'assumer ce statut parce que nous voulons rester disponibles pour Dieu, ce qu'il a prévu pour moi, pour vous, pour nous aussi en tant que communauté. Et puis là, on voit que ça rejoint exactement le cantique de Marie, qui s'intéresse à la plus petite de ses servantes, finalement, qui s'intéresse, ce Dieu qui s'intéresse à monsieur et madame tout le monde, parce que Marie, c'était monsieur et madame tout le monde. Hein. Ce n'était pas la Marie que l'on connaît maintenant. Au moment où elle était appelée par Dieu, c'était une femme de Galilée, comme il y en avait des milliers d'autres. Elle a reçu un appel particulier, et à partir de ce moment-là, elle a grandi. Et puis je crois que pour nous aussi, c'est important de savoir que ce terme de héros, on l'a choisi un peu à dessein, il n'est peut-être pas facile à porter, mais il est quand même réel de ce que Dieu veut pour nous, de ce que Dieu, dans son amour et dans son appel, veut pour nous. S'il nous dit que nous sommes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, une nation sainte, le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites, pour sortir de la nuit et conduire vers sa lumière magnifique. C'est pas mal hein, comme programme. C'est pas mal et je crois qu'on a besoin vraiment là de cette force qui est unique. Alors ce que je nous propose, c'est que on donne le temps de Sainte-Seine qui rappelle cette présence de Dieu en nous, cette présence de Jésus en nous, de l'Esprit-Saint en nous. Que ce temps de Sainte-Seine nous aide particulièrement à discerner ces deux éléments-là. Où est-ce que j'en suis dans mon appel que Dieu a mis sur ma vie ? Peut-être même quel est mon appel renouvelé aujourd'hui ? Où et comment est-ce que le Saint-Esprit veut œuvrer en moi et à travers moi ? Je pense que c'est des questions qui restent fondamentales pour nous, qui restent importantes particulièrement lorsqu'on a ces points de passage comme la Pentecôte. Comment est-ce que le Saint-Esprit veut œuvrer en moi et à travers moi ? Amen.